Bien, écoutez, chers amis, d'abord, quand Eric m'a contacté, propos conclusifs, je me suis dit, moi, en personne de quelqu'un qui aurait pu être universitaire, puisque j'étais destiné à être professeur agrégé, puis, comme je disais à certains d'entre vous, j'ai assisté tout jeune à une leçon d'agrégation aux côtés d'un doyen de faculté dont j'étais vraiment le poulain, Gabriel Marty à Toulouse. Mais quand j'ai vu comment ça se passait à l'époque, je me suis dit non, je suis pas de cela. Et le dialogue vrai, frais, sans détour, transparent entre deux personnes de la Corbière, puisque j'avais fait mes études secondaires à Carcassonne et supérieures à Toulouse, fait qu'il a compris que j'étais un homme qui voulait les choses claires et qui soient pas ambiguës. Et donc j'ai fait le saut vers la magistrature. Voilà. Alors, ceci étant. Mes chers amis, d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Olivier Béot, Éric Buge, Cécile Guérin-Bargue et Charles-Édouard Sénac pour cette initiative qui nous a fait voir. Moi, j'ai assisté depuis ce matin à un magnifique voyage pédagogique et d'opinion qui est parti de 420 avant Jésus-Christ, en passant par la Grande-Bretagne, les États-Unis, Nice, etc. Et des gens auxquels je suis sensible, on connaît. Dans l'État, je suis quelqu'un qui s'exprime selon une expression qui est bien ancrée sur ma personnalité, vrai, frais, sans détour. Et donc j'ai apprécié tout, y compris ce qui pouvait a priori gêner, tout au moins sur le plan corporatif. Or, tout le monde sait dans la magistrature que je n'ai jamais été un homme du corporatisme et que j'ai été un homme à part, qui a peut-être dérangé, mais qui a fait son boulot. Quel que soit le climat politique, avec, comme le rappelaient tous les gardes des Sceaux, compétence, courage, responsabilité. Quels que soient les séismes auxquels j'ai été confronté, et c'est une de mes rares fiertés, je peux le dire, à part mon poste à la sortie du CNEJ à l'époque, j'ai fait du concours pas de l'ENM et du CNEJ, hein, j'aimais la mer, le seul poste qu'il y avait au bord de la mer, c'était Saint-Nazaire. Le poste le plus au sud, mon homme du sud, c'était Bourges. Donc, j'ai pris Saint-Nazaire et j'ai fait toute une carrière au parquet. Bon, toute une carrière au parquet. On vient de représenter la société. Bon. Alors, ce que je voulais dire, c'est tout a été dit, toutes les expressions qui caractérisaient les divers intervenants dans leur éthique, dans leur conception, dans, je dirais pas dans le mot idéologie, dans leur manière de ressentir les choses qui propulsent un regard, et moi je suis pour les regards croisés, et j'ai donc apprécié cette diversité d'approches sur l'exemplarité des gouvernants. Alors, à cet égard, je voulais me permettre, au moment où j'ai été magistrat de 1965 à 2013. Et puis, il m'est arrivé une chose inattendue, la plus belle. La plus belle dans la respiration de l'État, d'être appelé président de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie publique. Pendant 6 ans, je me suis trouvé, après avoir eu une carrière judiciaire chaude, jamais incolore, inodore et sans saveur, j'ai été pendant 6 ans au cœur du réacteur du monde politique, et qui m'a permis au moins d'avoir ce label qui me fait plaisir, c'est que toutes les sensibilités politiques, quand j'ai quitté la haute autorité, ont salué le travail impartial, indépendant de l'homme qui a construit cette maison. Et je suis content de parler ici avec des gens qui sont témoins, Éric Buge, que j'ai choisi. Cet homme-là, je l'ai choisi. Il a partagé avec moi des nuits, des travaux durs, et nous avons fait les choses, je crois, avec, on peut en dire, une certaine fierté. Je le dis aussi, M. Wackmann, déontologue, qui m'avait été recommandé par, comment elle s'appelle, qui est de la même veine que moi à cet égard, la Strasbourgeoise, voilà, dont j'ai validé la charte de déontologie et le travail que vous initiez, Agnès Roblot, auquel je rends un hommage, parce que la partie pour elle était peut-être plus difficile que pour moi, Parce que moi, j'avais un collège, et un collège d'élite. Deux conseillers CAS, deux conseillers d'État, deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, des personnalités spécialisées, une équipe que j'ai montée, je suis fier, de gens d'une qualité exceptionnelle et d'une indépendance absolue et d'une compétence, avec une seule chose qui manquait, et je le revendique sous le contrôle d'Éric, si l'on s'eût été, ça aurait pu être ce que certains craignaient, une institution qui pouvait faire très très mal. Eh bien, elle n'a pas fait très mal avec moi, et je suis fier au moins, je le dis, je l'ai dit publiquement en quittant les fonctions, et on l'a reconnu, j'ai mis en place une transparence apaisée. Je n'ai pas fait ce que redoutait Guy Carcassonne, ça n'a pas été une transparence névrotique. Et ce qui n'est pas dans le texte d'octobre 2013, à savoir le dialogue, le contradictoire, moi, magistrat, je l'ai mis de fait. Et je parle sous le contrôle d'Éric, bon nombre de ceux qui auraient pu, dans une conception stricte de la loi, passer à la trappe, ne sont pas passés à la... et ne sont, sous mon air, passés aux quatre boulevards du palais, vers le palais de justice, que ceux qui vraiment portaient lourdement des croix qui ne pouvaient pas être autrement qu'aller vers le sacrifice de la justice. C'est cela. Je le revendique parce que j'ai mis en place une transparence contradictoire. Un dialogue. Et même les plus durs, n'hésitons pas, même ceux qui a priori étaient tendus, eh bien, à la fin, mais pas à la fin, même chemin faisant, hein, je pense à des leaders politiques comme Christian Jacob, eh bien, il m'a rendu hommage. Bon, ils ont dit, bon, Nadal, rien à dire, c'est vrai. Et voilà, parce que je crois que dans la vie, il faut être d'une exemplarité soi-même. Je parle sous le contrôle d'Éric. Quand je suis arrivé à la tête de la haute autorité, j'ai fait passer un frisson au collège. J'leur ai dit, vous rendez compte la charge qui pèse sur nous, on doit donner l'exemple. On va déclarer nos patrimoines et nos intérêts. Éric peut vous dire, monsieur le président, c'est pas dans les textes. Moi, je le fais. Et en donnant l'exemple, la contamination par capillarité, tout le monde s'est mis en marche. Parce qu'une institution comme celle-ci se doit d'être exemplaire. Et l'exemplarité à la haute autorité, je parle sous le contrôle d'Éric, qui était mon secrétaire général, elle a été vraiment respectée. Et je dis à Éric merci pour tout ce qui a pu accompagner le travail que nous avons vraiment accompli ensemble. Ceci étant, je prends d'abord un volet positif pour reprendre ce qui a est sorti de certains intervenants, la haute autorité au moins aura eu cet avantage, et je le revendique aussi, d'impulser une culture, une pédagogie. Et combien de temps, combien de fois ai-je dit à des politiques qu'ils faisaient erreur? On ne fonctionne pas dans une république, une démocratie, avec de la com. On fait de la pédagogie. On fait de la pédagogie, on enracine, et on va, comme l'a dit l'un des orateurs tout à l'heure, vers l'école. Car l'état de droit, c'est l'affaire de tous. L'exemplarité, c'est l'affaire de tous. Alors, bien sûr, il y a des plots, il y a des secteurs qui sont incontournables. La HATVP, les déontologues, les assemblées, la justice. Et je pense que c'est dans cette vision que l'on peut avancer les choses, et donc je le revendique, et Patrick Vexlin peut le dire, dans le malaise qu'il y a, car il y a un malaise. Je suis quand même quelqu'un qui est dans la magistrature, était confronté vraiment à la complexité du décisionnel, et à la haute autorité aussi, mais d'une manière plus secrète. Je n'ai parlé qu'une fois. Avant de faire mon bilan, une fois. Et j'ai été salué par l'Assemblée nationale quand, parce qu'il n'y a que 1% des responsables politiques qui causent ce désordre, cette émotion, et qui entraîne, comme je l'ai dit en public à des politiques, dans la cathédrale de la République, aux grandes orgues, on se met à jouer l'hymne du tous pourris. Je ne l'ai pas accepté. Et dans un journal du Parisien, j'ai donné une interview pour dire halte à tout cela. Et le président de l'Assemblée nationale, en personne, Richard Ferrand, m'a appelé et m'a envoyé un mot en me disant « Merci pour ce que vous avez fait. » Je n'étais pas obligé de le faire, mais j'ai trouvé que trop, c'est trop. Et dans ce pays, il faut faire attention, l'excès nuit en tout. Alors, comme finalement, c'est bien de m'avoir mis les deux casquettes, procureur général de la Cour de cassation, ancien président de la Haute Autorité. Parce que exemplarité des gouvernants, ça veut dire que c'est une exemplarité qui, si elle fait défaut, elle va chez les juges. Et moi, je vous dis aujourd'hui que la fonction la plus belle qu'on peut avoir quand on est responsable d'une haute autorité, quand on est responsable judiciaire, quand on met vraiment un acteur de la régulation de l'état de droit, c'est d'apaiser et de voir clair, de dialoguer, de faire une pédagogie. C'est essentiel. Et à cet égard, je le dis, je parle sous le contrôle Patrick Gassman, j'ai pris des initiatives en réunissant au Sénat, sous la régie de Gérard Larcher, les déontologues, on a diffusé, on a concerté, on a mis en commun les problèmes et on les a résolus chemin faisant. On a mis en place les chartes de déontologie. Elles ont été validées et discutées par la haute autorité. Et même, le premier auquel j'avais porté la main pour rectifier une charte qui était un peu à revoir, c'était la charte de déontologie de l'Élysée sous François Hollande à la suite d'un conseiller qui, bon, s'était pris quelques libertés avec, je crois, les chaussures, n'est-ce pas, Eric, hein, et d'autres choses. Donc, si vous voulez, j'ai remis d'équerre tout cela. Bon. Je pense que tout cela, c'est important parce que c'est un travail de fond. Et c'est au fil du temps, selon l'expression propre au magistrat que je suis, que j'ai souvent sorti dans mes discours ou mes réquisitoires, le temps rend toujours son verdict. Et j'espère avoir ensemencé une culture qui, au fil du temps, pourra être reprise dans le sens que j'évoque. Mais il y a, et ça a été très bien dit dans votre intervention à la suite, votre réflexion à la suite de l'intervention de votre collègue niçois, le malheur, c'est que c'est toujours à la suite d'une secousse, pas qu'une loi, trop de lois tuent. Non, il faut être clair. Et je vais m'expliquer. La haute autorité de transparence de la vie publique, elle a mis en place une transparence apaisée, reconnue. On a veillé à ce qu'il n'y ait jamais de voyeurie. Sur la vie privée, rien n'est passé. Ce n'était pas besoin que le Conseil constitutionnel, vous savez, les choses sont ce qu'elles sont, mais le respect de l'autre, quand on voit qu'il n'est pas tentatoire à la vie publique, eh bien, on sait ce qu'on en fait, on n'en parle pas. Il faut être clair, avant d'être législateur, il faut être quelqu'un qui apprécie humainement, sereinement, concrètement, d'une manière responsable la situation. Et ça, on y a veillé. Je le parle parce que je regarde Eric, que j'avais piqué à Noël le Noir. Voilà. Donc, ça, c'est un point important. 1% qui entraîne ce tous pourri, qui crée un malaise terrible. Et il faut y mettre un terme. C'est pour ça que j'ai fait renouer la confiance. Quand éclate l'affaire Thévenoud, et il peut, il était à mon bureau, quand ça éclate, attendez, prends le téléphone, ben c'est moi l'expression sportive, carton rouge, ça a été fait. Et à partir de là, j'ai fait avec une équipe un travail dont certaines propositions ont été suivies partout. Et dans ces interventions diverses qu'il y a eu, j'ai senti un peu comme sur le chemin du petit poussé, des cailloux qui n'ont pas été récupérés pour tracer la route. Je voulais dire tout à l'heure, on a vraiment ouvert une voie qui, tout n'a pas été suivi de loin, mais beaucoup a été fait, beaucoup. Donc ça, c'est important. Ceci étant, comme le disait le dernier intervenant, 40% d'expansion de la corruption dans le pays. 75% des Français, c'est l'IPOP, n'ont aucune confiance dans les gens politiques. Nous sommes dans une démocratie de la défiance. On ne croit plus en politique, on ne croit plus aux juges, on ne croit plus à... Et aujourd'hui, on arrive à quoi ? À une culture qui est quand même dévastatrice des grandes valeurs sacrées de la République. Hein, voilà, aujourd'hui, la culture, ce n'est pas l'école. Je ne sais pas comment le citer sur l'un des orateurs de l'heure, Jules Ferry, c'est les réseaux sociaux. Voilà, là, maintenant, on navigue comme ça. Ben, si on navigue comme ça, un jour, il y aura une navigue tempête, je ne sais pas comment ça se passera. Et c'est surtout pour les jeunes, les générations à venir, comment on regarde ce travail sur ce que j'écris. Donc, ça veut dire aussi une chose. Ça veut dire que, quel que soit, je pense que je comprends qu'il est juste, quelle que soit la rigueur, le travail sérieux qui est confié au président, avant un remaniement ministériel, dans le Figaro, il y avait un gros titre. Pour être ministre, aujourd'hui, il ne suffit pas de plaire au président de la République, il faut passer par le filtre Jean-Louis Nadal. Ça ne vous fait pas des amis, ça. Hein, bon. Et c'est un filtre pur. Parce que quand il y a la composition d'un gouvernement ou un remaniement, le président de la République m'appelle, il me donne, sous le sceau de la confidence, le nom de ceux qu'il veut envisager et envisage d'être ministre. Ils ont tous les deux eu la bonne idée chaque fois d'en donner plus que les postes étaient à pourvoir, sentant peut-être qu'il y aurait... Bon. Et donc, ce travail est un travail de secret d'État, et Éric Buche peut le dire. Quand au terme de ce travail, j'arrive devant le collège pour dire un tel, hein, qu'est-ce que mes collègues au magistrat souhaitaient que je dise ? Dis donc, cher ami, monsieur le président, des recalés, pas question. Je n'ai jamais, je les ai gardés en moi, à la vie, à la mort. C'est ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que lancer des noms dans la presse, ça fait un mal fou. Et ça, je l'ai toujours dit, y compris au magistrat. On va en parler après. Donc, c'est un principe fort. Il faut donc arriver à faire en sorte que on puisse avoir le moindre risque maintenant de secousse. La haute autorité, et notre ami Sénac le sait, parce que j'ai discuté avec lui, on a discuté ensemble, dans d'autres cadres, la haute autorité fait un travail maximum vis-à-vis de la vérification de patrimoine, des intérêts, etc. Bon. Et il n'empêche que, vous voyez, je ne citerai pas de nom. Comme je ne citerai pas le nom des affaires que vous avez évoquées chez madame, pas plus que les derniers, il y a des affaires dehors qui sont en cours. Bon, mais je ferai des observations qui me paraissent devoir être injectées dans ce temple pédagogique de cette université sacrée. Eh bien, il faut donc que cesse des nominations ministres, puis 3 semaines après, ils ne sont plus ministres. On vient de découvrir un cadavre suffisamment lourd pour pouvoir quitter le terrain. Si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, magistrat, responsable, président de la haute autorité, m'a amené, depuis que j'ai cessé ces fonctions dans l'État, à réfléchir. Et je dis aujourd'hui, il faut se méfier de tout ce qui se fait un peu vite. Et avec Sénac, on a travaillé avec d'autres personnes sur comment améliorer les processus de fonctionnement de l'État après l'élection présidentielle. Songez que 10 jours après l'élection du président de la République, ça y est, on nomme le secrétaire général du gouvernement, les ministres. Attendez, le président de la haute autorité, attendez, il voit tout. Hein, et il a quoi? Il a très peu de temps. Et il est sur un registre, quels que soient les liens de clé, de confiance, d'authenticité, de secret, avec la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, que la haute autorité contrôle. C'est un progrès considérable en termes d'indépendance. Eh bien, il y a toujours, toujours, passez-moi l'expression entre guillemets, on est entre nous, des casseroles qui arrivent. Voilà. Là, c'est, et ça, c'est, il faut que ça cesse. Alors, je pense qu'il faut que la haute autorité, elle a évolué d'abord dans la structure même du cadre des lois d'octobre 2013. Ensuite, elle a fait un pas très important à la suite d'un débat auquel j'ai participé, et je pense qu'Éric était témoin, au Sénat, sur l'évaluation des autorités administratives indépendantes. Et là, sur la transparence, j'ai déchaîné. Il y a eu un tsunami qui est monté, qui était, attendez, monsieur le président, et l'affaire Bézard, ces gens qui sortent, et puis ils s'en vont. Non. Et là, c'est là que j'ai décidé de faire en sorte que la commission de déontologie de la fonction publique soit intégrée au dispositif de fonctionnement de la HATVP. Ça a été une partie de bras de fer que j'ai gagnée en 3 jours. Car, et ça correspond à des mots qui ont circulé à travers la bouche des différents orateurs, car une défiance commençait un peu à circuler. Quoi, attendez, la HATVP, elle dérange. Donc, il ne faut pas déranger les hauts fonctionnaires. On ne va pas les traiter comme les politiques. D'où il y avait un projet d'une maison à deux têtes, président de la HATVP, président de l'ontologie ensemble. Ah là, c'était mal me connaître. Comme Raphaël Nadal, la grande époque du fond du cours, smash sur smash, c'est le président de la République lui-même qui a dit c'est Nadal qui a raison. Voilà. Donc, ça, c'est une étape qui est importante. Parce que tous ces problèmes de pantouflage, etc., sont maintenant ciselés, travaillés avec des gens compétents. C'est un collège avec des gens éminents. Bon, des professeurs de droit public qui sont éminents, qui sont à la HATVP. Bon, donc, ça, c'est un progrès considérable. Il n'en demeure pas moins que je pense qu'on doit envisager, qu'il serait envisageable de donner au président de la haute autorité un statut à part. Ce statut, c'est pour permettre que tout ce qui est incident, je suis d'accord avec vous, pénalisation, soit quelque chose qui rentre dans le rang et voire même disparaisse. Je pense qu'au moment où on vous donne les noms, le président de la haute autorité devrait, en plus du pouvoir qu'il a actuellement, s'adresser à la DACG, à la Direction des Affaires criminelles des Grâces, via des remontées d'informations pour savoir si tel nom n'est pas porteur d'une procédure qui est dans les tuyaux quelque part, au procureur général, procureur de la République, à l'OCRIF, à l'Office central de répression des infractions financières fiscales, avoir vraiment une couverture, hein, un quadrillage sérieux qui permet de dire au président public feu vert, complet, sur l'autoroute, pas sur une départementale où il y a des virages. On ne sait jamais sur un virage, il ne peut y avoir pas. Donc, si vous voulez, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait permettre de mettre un terme à cette hymne qui m'énerve du tout pourri parce que c'est éminemment désagréable et c'est vraiment humiliant dans une république que les gouvernants, que les responsables politiques soient traités de gens de tous pourris. C'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui est insupportable dès lors que l'on peut y mettre un terme, mais encore faut-il permettre de voir un terme. Et pour cela, je pense, je l'ai laissé comme testament, Je pense que cette exigence d'exemplarité, de dignité, de probité qui est contenue dans l'article 1er des lois d'octobre 2013, eh bien, il faudrait, à mon avis, qu'il soit constitutionnalisé. Quelqu'un tout à l'heure a parlé un peu de constitutionnel, il faudrait que ça soit constitutionnalisé. À partir du moment où un ministre responsable politique sait que, attention, il est le reflet de ce que la Constitution, la loi suprême, affiche, exemplarité, dignité, probité, je pense que ça peut causer quand même réflexion et faire avancer les choses. Voilà ce que je me permets là de dire. Alors, autre chose, en reprenant ma casquette de magistrat, de procureur général, j'ai entendu beaucoup de choses. Je vais vous dire ce que je pense, à la lumière d'un parcours dans la magistrature qui m'a amené sur des pôles sensibles. J'ai été à l'équipe de direction de l'ENM, j'ai été à des pôles sensibles, j'étais inspecteur général des services judiciaires pendant 4 ans et j'ai occupé des postes explosifs. Que chacun mesure les responsabilités qui doivent être prises. Je suis pour un apaisement et un dialogue entre les juges et les politiques. Je l'avais initié en 2000, quand j'étais procureur général de Paris. J'avais, avec le premier président, mis en place des stages avec les parlementaires pour venir dans les cabinets d'instruction et du parquet. Et je me souviens d'un turbulent parlementaire, bien connu, mais attachant, était Michel Charras, à qui quand même ne se gênait pas pour arroser les juges. J'avais dit, stage chez le procureur de la République de Paris. Et à l'issue de ce stage, était monté avec le bureau mon bureau de procureur général en me disant, merci monsieur le procureur général, ben j'ai compris. Eh bien, si vous voulez, ces échanges de magistrats et de fonctions politiques, de parlementaires en particulier, je pense que c'est une bonne chose, comme je l'ai fait à la Haute Autorité avec Gérard Larcher, avec tous ceux qui s'occupent de la déontologie et des chartes de déontologie, de la culture de l'intégrité. C'est important. Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, avec le recul du temps, l'indispensable hauteur de vue que je dois prendre, y compris sur moi-même, avec cette force qui fait que c'est, je le dis pour ceux d'entre vous qui peut-être un jour seront magistrats, c'est le plus beau métier. On ne vieillit jamais, on s'enrichit jusqu'à la fin du regard des autres. C'est un métier qui est à condition que vous soyez dans le doute, dans la transcendance permanente, l'exigence d'exemplarité et que vous sachiez les responsabilités que vous prenez. Je le dis, ceux qui ont travaillé avec moi, Dieu sait s'il y en a eu, savent très bien que j'ai été toujours contre. On saisit un juge d'instruction pour voir, on renvoie. Non. Et là, je vous suis, cher ami, pour moi, je le revendique. Tout le monde le sait très bien qu'elle a été pont à le plus grand parquetier de France. Pierre Truche, dont j'ai été le bras droit. Et j'ai succédé à lui. À Lyon, à la cour de Casse, donc je suis pétri de cette doctrine. La loi, rien que la loi, toute la loi. Le dossier, rien que le dossier, tout le dossier. Les errements de ceux qui entourent ceci de moral ou d'autre chose, non. Et je vous donne un exemple ici. Que Dieu ait son âme. Un grand bâtonnier qui était maître Fartois, quand j'étais PG Paris, dans une affaire énorme, était venu avant l'audience, dans mon bureau, je connaissais bien, j'avais très bon contact avec le barreau, et il me disait, ce procureur, et ça, quoi, et ça, vous rendez-vous. Je lui disais, maître, ce bâtonnier, vous inquiétez pas, à l'audience, vous verrez. Je ne suis pas
un prêtre, qui par la robe d'un prêtre, le ministère public, c'est un confessionnal. Vous verrez.
Et il a été scotché. Quand l'audience est arrivée, j'ai abandonné l'accusation sur ce grief. Car il n'y avait pas lieu d'être. Il n'y avait pas de droit. Et on n'est pas là pour porter tout ça. Donc, si vous voulez, chacun sa place, la loi, rien que la loi, toute la loi. Et c'est le seul moyen pour que les gens comprennent. Et je le dis aussi parce que ministère public, j'ai souvent planché sur la liberté de parole. La liberté de parole, ce n'est pas de dire tout et n'importe quoi. Comme je vous le disais ce matin, là, quand on discutait au bas de cette tribune, cher ami, c'est requérir, c'est un acte de pédagogie. On n'est pas là, on représente la société. Et il faut qu'il y ait une pédagogie de la cohérence et pas de... On n'est pas là pour porter des coups. Mais que ce soit non seulement dans les affaires dites politico-financières, celles qui font frémir les filets de la République, mais dans toutes les affaires. J'ai eu des affaires criminelles, des grands voyous. Ben écoutez, on fait le boulot, hein, et puis les avocats sont là pour faire leur boulot, et j'ai toujours dit que les avocats n'étaient pas mes adversaires, mais mes contradicteurs. Donc, je veux dire que, à partir de là, chaque acte, il faut prendre ses responsabilités. Vous êtes magistrat, on vient de faire, il y a un rapport qui est sorti, je le connais, j'ai présidé le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, on vient d'allonger encore le chapelet des poursuites disciplinaires, c'est très bien, très très bien ça, bon. Mais la réalité, c'est quand vous prenez des décisions, il faut savoir la portée des décisions et la conduite des décisions. Il est, pour moi, et je peux le revendiquer, les gens disent, oui, Nadal, oui, oui, hein, je suis une affaire lourde. La plus grosse, j'ai eu à Lyon, elle n'a duré que 3 ans et demi. Hein. Instruction, TGI, cour d'appel pour Vancas. Une lourde affaire. Hein. C'est la conduite. On ne peut pas aujourd'hui avoir des affaires qui durent 8 ans, 9 ans, mais attendez, dans le chapelet de tout ce que vous égrenez les uns et les autres, je me disais, vous êtes, je le comprends, mais encore faut-il que ça soit intégré dans le champ de la responsabilité du magistrat. Et quand il faut savoir appliquer les textes, le procureur de la République dirige la police judiciaire, le procureur général contrôle la police judiciaire. On sait avec qui on travaille, on n'est pas là pour saisir. Puis ça part comme ça, et puis ça revient, quoi, oh, quoi, si, 2 ans, 3 ans après. Non. Dans les grosses affaires que j'ai eues, j'avais mis en place toujours, que ce soit à Bastia, à Lyon, à Aix, à Paris, des contrats de procédure. Et on va au cœur. On va pas bricoler autour de trucs, avec des trucs. Bon, on va au cœur. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que les gens comprennent. C'est sûr que la lenteur, la conduite, c'est une responsabilité. Et ça, je le dis parce que c'est une éthique qui permet à la justice de se faire respecter et de ne pas être critiquée sur le temps qu'elle met pour sortir les affaires au bout de temps et tant d'années. Ça, c'est un point important. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Oui, la conduite. Alors maintenant, de l'autre côté, c'est sûr. Responsabilité des magistrats, du parquet, la parole, du siège. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que, en réalité, le magistrat, comme vous le disiez pour la déontologie, comme vous le disiez pour l'exemplarité, à quoi pour avoir des codes, à quoi avoir des lois? On l'a en soi. L'indépendance, attendez ces histoires d'indépendance, ça court depuis des années, on l'a en soi. Oui, mais faut-il être habité par cela et que ça soit ce que j'appelle, dans un corps comme celui pour lequel je suis passionné et dont je vois comment il peut évoluer, il faut avoir une intelligence collective. La justice, c'est un service public. C'est pas n'importe quoi, c'est un service public. Ça, ça demande d'être rappelé aujourd'hui de nos jours. Donc ça, c'est du côté du parquet, du côté du siège aussi. Excusez-moi, attention. Vous savez, je vais vous dire une chose, je vous fais une confidence personnelle. J'avais commencé naturellement en cédant aux sirènes de tous ceux qui m'ont plus ou moins aimé dans la vie, écrit tes mémoires. J'ai commencé à écrire, et puis j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je veux dire que je ne détiens pas la vérité. J'ai fait en sorte que les choses soient le plus crédibles possible. Et puis, pourquoi écrire alors que des gens sont morts, des gens sont allés à terre? J'ai toujours eu un respect pour tous ceux qui sont tombés, quels qu'ils soient droit commun ou politique. Et Éric Gueux, je peux dire une chose. Comme magistrat, président de la haute autorité, vous pouvez avoir des gens autour de vous, quelle que soit leur valeur intellectuelle extraordinaire, conseiller CAS, conseiller d'État, conseiller maître à la Cour des comptes, personnalité spécialisée. Vous êtes sur une situation qui vous cause, si vous voulez, une émotion de rejet. Et là, on vous dit au président, allez, il faut y aller, article 40. Non. Je dis non. Pourquoi? C'est prescrit. Mais non, ouvrez. Non. Je ne l'ai jamais fait comme magistrat. Je ne le ferai jamais comme président de l'autre autorité. C'est clair. Voilà. Et je me lève au tableau et je fais une direction d'études sur le parquet pour expliquer comment, hein, qu'est-ce que c'est qui est prescrit, la prescription, les actes suspensifs, la prescription, etc. C'est ça la loi. Aujourd'hui, si vous voulez, dans ce pays, il faut que l'État de droit tienne la route. Que chacun, au poste qui lui revient, assure ses responsabilités. Alors, côté des politiques, il faut aussi que les politiques eux-mêmes comprennent que moins on voit les juges, mieux on se porte. C'est comme dans les grands matchs de rugby ou de football. Moins on siffle, ça veut dire que la République joue bien. S'il faut à chaque fois. Et ça, c'était le rôle à l'Assemblée nationale. Et je redis l'admiration que j'ai eue pour vous, parce que vous n'avez pas eu la partie facile. Vous n'aviez pas comme moi autour de vous une équipe, un collège. Je sais, bon, et je sais ce que vous avez marné. Et je sais, on a fait des travaux ensemble. Voilà. Et ça, je crois que c'est important. Il faut que les gens comprennent que ça, il faut faire, on n'est pas au-dessus des lois. Et je pense que c'est dans le dialogue qu'on le comprend. Je parle sous le contrôle d'Éric. Quand en 2014, je m'aperçois, en passant alors un audit complet sur l'état de santé des parlementaires, Sénat, Assemblée nationale, je découvre, on découvre que bon nombre s'abreuvent dans la mangeoire de ce qu'on appelait l'IRFM, l'indemnité de représentation, frais de mandat, qu'on se met dans la poche, on va passer un très bon Noël à Tahiti, et on s'en fout des autres. Et là, il y a du monde. Il y a du monde. Je parle sous le contrôle d'Éric. Attendez, on me dit, président, vous qui avez été procureur, oh, oh. Je dis, vous laissez faire. Je vais voir le président de l'Assemblée nationale. Je vais voir le président du Sénat. C'était extraordinaire. Et au cours d'une réunion de travail, c'était le président du Sénat, son directeur clinique, et moi. J'ai dit, voilà, c'est clair. 15 février 2015, tout rentre dans les clous. Sinon, à la queue leu-leu, article 40, au 4 boulevard du Palais. Évitons cela. Ça a été fait. Et ceux qui ne se sont pas pris à cet exercice ont été pris à la fin du mandat où on vous contrôle. Et là, on s'aperçoit que certains ont continué. Je pense qu'il faut que les politiques eux-mêmes sachent que leur image doit les amener à ne pas être exposés. Et pour être ne pas exposé, eh bien, il faut être très clair. Et la haute autorité, je le dis, à cet égard, elle a été exemplaire. Parce que on pouvait, et on a pas mal ergoté et discuté sur les patrimoines. Éric Gueux, pour vous dire que je ne me suis pas acharné là-dessus. Non. Par contre, ce qui était le point sensible, c'est les conflits d'intérêts. Et le premier travail que nous faisions à l'HATVP, c'était tout de suite les conflits d'intérêts. Je m'excuse de le dire, sous ma présidence, il n'y a pas eu un accrochage sur les conflits d'intérêts. Je ne cite pas le nom de ministre auquel j'ai appelé en disant « Ah, attention, on règle, c'était fait, c'est vrai. » Voilà. Et ça, c'est, je pense que c'est important. L'état de droit, l'exemplarité, c'est l'affaire de tous. C'est une pédagogie vraiment qui doit être vraiment, vraiment cohérente et de compréhension. La haute autorité, elle n'est pas là pour sanctionner. Elle n'a pas de pouvoir de sanction d'ailleurs. Et elle a même un pouvoir particulier. Donc, personne ne parle. Dieu sait, je parle sous le contrôle d'Éric. Combien d'assujettis qui frôlaient l'article 40 ont eu ensuite, et personne n'a su, que les seuls concernés. Une lettre en disant, voilà, bon, après discussion, c'est rentré dans les clous, mais attention, on ne fait pas une petite récidive, parce que là, c'est, attention, bon. Eh bien, si vous voulez, cette obligation de prévention, de dialogue, elle est essentielle. Voilà, bon, il y aurait d'autres choses à vous dire, mais au vu de ce qui a été dit ce matin, qui m'a beaucoup plu, et je salue surtout ceux qui ont initié ici, la liberté de parole, et que chacun, en réalité, je pense qu'aujourd'hui, il faut dans le malaise qu'il y a dans la République, il faut que les gens se parlent posément et pas avec ce qui est détestable, de la rancœur, de l'amertume. Non, je pense qu'on peut aujourd'hui, et j'en suis convaincu, faire avancer les choses dans une compréhension et une responsabilisation mutuelle. Parce que qui dit exemplarité des gouvernants dit aussi que lorsqu'il n'y a pas exemplarité du gouvernement, il faut qu'il y ait exemplarité des juges et que tout ceci, c'est la République, c'est l'État de droit. Et moi, j'attends de voir. Voilà. J'attends de voir que ces choses, je fais confiance aux générations à venir pour que les choses évoluent. Voilà. Et je vous redis encore merci parce que je trouve que ce que vous avez initié, c'est pour tous ces jeunes qui sont là, eh bien, ça donne à réfléchir sur en profondeur. Et je le dis et je le répète, parce que je suis content d'être dans une enceinte universitaire, et je le disais, je ne sais pas qui ce matin, je pense qu'il faut resserrer les liens entre l'université et la justice. Il faut, et j'ai été le seul, je peux le dire, j'en parlais tout à l'heure à l'une d'entre vous, quand j'étais procureur général de la Cour de cassation, les gens ont été étonnés. Ben, j'ai fait nommer avocat général de la Cour de cassation des universitaires, des gens voilà, qui m'ont beaucoup appris voilà, dans chaque chambre. Et quand ils exprimaient des difficultés, parce qu'on est dans le concret là, hein, on n'est pas comme dans les théories de Molomb à ergoter, à contrario, etc. Là, on est dans le solide. Eh bien, certains m'ont poussé à innover et j'ai transformé le détachement de 5 ans en 8 ans. Et je dis que ça a porté considérablement au fonctionnement du parquet général, non seulement des universitaires, mais des notaires pour les chambres civiles, voilà, etc. Moi, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une politique de vaste communicant, des compétences, hein, et qu'on ne cloisonne pas. Voilà, je pense que la société de la République d'aujourd'hui, elle exige pour l'État, pour le bien public, de regrouper hein, tous ceux qui sont porteurs de valeurs, d'espoir, et ne pas les laisser s'enfoncer dans des carrières monolithiques. Voilà, il faut respirer la démocratie.